ensuite l'Espagne.
Et comment ce trajet s'est-il terminé en tragédie?
Oui, le trajet était terminé par l'enfer, parce que c'était dur. On est souffrir, on est faim, on n'a pas de l'eau à boire. Même, il y avait beaucoup de personnes mortes. Il y avait 75 personnes qui sont mortes dans la pirogue.
Alors, Abdou, vous avez dit que 75 sont morts dans cette pirogue. Qu'est-ce qui les a tués?
Ce qui les a tués dans la pirogue, c'est du faim. Ensuite, toute l'eau est finie. On n'avait pas de l'eau à boire. Et le froid encore.
Le froid.
Et le froid, oui, dans la mer. C'est ça qui était les gens dans la mer. Elle avait tué beaucoup de personnes ensuite.
Et comment faisiez-vous une fois que les personnes étaient mortes?
Quand les personnes étaient mortes, on les laisse dans la pirogue. Le matin, il fait 10 heures, on s'arrête dans un endroit, en plein mer, on les jette dans l'eau.
Est-ce que vous avez vu des amis proches de tes parents? Est-ce que vous avez vu des parents proches, très proches, que vous avez vous-même contribué à mettre dans la mer?
Oui, on avait vu beaucoup de parents des enfants qui étaient avec nous, mais quand on demande les enfants, on leur dit qu'on les laisse dans la mer. Parce qu'on n'a pas de glace pour glacer ça pour amener les morts. Sinon, on tue les autres personnes. On les laisse dans la mer, comme ça.
Alors vous êtes revenu. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que vous étiez bien parti pour traverser la Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, ce qui s'est passé, on a traversé la Maroc. Ensuite, les Marocains nous vit dans les radars. On a grillé notre GPS. On n'a pas de réseau pour partir. Parce que si on part, il y avait beaucoup de tempêtes. On prend les risques. Mais les tempêtes peuvent exploser la pirogue.
Ouais. Sur le chemin de retour, est-ce que vous n'avez pas vu d'autres bateaux qui pouvaient vous aider quand même?
Oui, bien sûr. On a vu un bateau là-bas, en plein mer, vers Noidibo. Des bateaux de Grec là. On leur a demandé de l'eau à boire pour manger. Tout, on a refusé. Ensuite, on a pris notre pirogue, on s'enfuit. Le lendemain, on est arrivé à Saint-Louis.
Oui. Ah, donc, Jacques, on note ici qu'il n'y a pas eu d'aide du tout au niveau des GPS des Marocains bloqués, les bateaux grecs qu'ils ont rencontrés, refus. Donc, il y a un refus total d'aide, d'assistance sur le chemin, à l'aller comme au retour. Voilà.
Témoignage fort poignant. Nous allons retrouver Abdou Diop un peu plus tard pour la suite de son histoire. Mais maintenant, je me tourne vers vous, Eladj Assi. C'est un témoignage de migrants que vous entendez, j'imagine, un peu trop fréquemment. Est-ce que cela vous touche, évidemment, à chaque fois?
Malheureusement, c'est un témoignage que j'entends trop fréquemment, mais on ne s'y habitue jamais. Donc ça nous touche toujours profondément. Donc moi-même, j'ai vécu l'expérience. J'étais sur les quais de Catania, attendant un bateau de 2000 personnes. Il y a seulement une trentaine qui sont arrivées. Plus récemment, à Valence, il y a juste quelques semaines, où l'Aquarius valsait entre l'Italie et Malte pour enfin se retrouver sur les quais espagnols. Il n'y avait que 523 migrants. C'était très médiatisé. 523 migrants, 600 journalistes. Donc tout cela donc montre les disproportions que nous sommes en train de vivre, mais tout cela aussi nous rappelle cette indifférence notoire dans ce monde d'aujourd'hui par rapport à la souffrance humaine, par rapport au cri de cœur humanitaire que nous entendons tous les jours. Et il est grand temps que tous ensemble, que nous fassions le nécessaire depuis les pays d'origine, à travers les pays de transit et sur les côtes d'arrivée.
Ramatoulaye Diaye, parmi les nombreux jeunes qui empruntent ces chemins dangereux de l'immigration clandestine, figure évidemment des Sénégalais, nous venons de l'entendre. Le Sénégal, un pays qu'on dit dynamique sur le plan économique et où la jeunesse ne manque de rien, d'après le Wall Street Journal. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi un pays qui n'est pas en guerre non plus. Alors qu'y a-t-il de si terrible dans ce pays pour que des jeunes comme Diop décident de partir et mettre leur vie en danger?
C'est une excellente question que moi-même je me suis posée à plusieurs reprises. Je me souviens qu'à l'époque j'avais fait une demande pour que les sociologues sénégalais se penchent sur la question pour savoir pourquoi ils veulent partir. Bon, il y a peut-être le mirage de l'Occident. Bon, c'est légitime d'essayer d'améliorer sa vie en cherchant à émigrer parce qu'en fait c'est une loi universelle. c'est un droit. C'est-à-dire tout individu, c'est dans les chartes des Nations Unies, tout individu a le droit d'aspirer à émigrer pour chercher une vie meilleure. Bon, aujourd'hui, quel est le problème au Sénégal? Pourquoi ils partent? Pourquoi ils risquent leur vie alors que nous ne sommes pas en guerre? Nous n'avons pas de problème de famine, etc. Tout est à faire dans ce pays. Et ils constituent la force vive de notre nation. Donc moi, je pense qu'il faudrait... À ce niveau-là qu'il faut d'abord commencer pour pouvoir venir à bout de ce problème, parce que ça fait presque 20 ans que ça dure et nous assistons tous les jours au même souci. La Croix-Rouge, elle est dans son rôle, elle vient en secours à ceux qui se sont engagés, qui sont déjà dans le système, si je puis m'exprimer comme ça, et donc ils viennent pour les secourir. Mais en même temps, nous devrions quand même faire une introspection, voir un peu où se situe le problème pour essayer d'y trouver des solutions. Voilà.
Là, je suis récemment, l'Aquarius, que vous connaissez bien, a erré pendant plusieurs semaines avec 141 migrants composés d'Érythréens, d'Éthiopiens, etc. Et c'était difficile. Errance. Vous qui avez été justement impliqué dans ces opérations de secours, comment expliquez-vous que cela devient de plus en plus difficile de faire accoster ce bateau qui transporte des migrants?
C'est justement cette indifférence par rapport à la cause humanitaire qui nous préoccupe. Toute personne en détresse en mer a le droit d'être secourue. Et les ports qui sont les ports les plus proches devraient en fait les accueillir. Et ceci est bien régi par le droit de la mer, c'est régi aussi par le droit international. Les politiques étant ce qu'elles sont, donc certains États se rejettent la responsabilité entre la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Italie, Malte. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, ces bateaux errent et valsent donc, de port en port jusqu'à, comme c'était le cas donc, pour l'Aquarius, que l'Espagne ouvre ses portes et ses bras pour accueillir donc, ces migrants. Donc ceci donc, nous rappelle deux choses fondamentales. Premièrement, c'est un droit fondamental que les personnes soient secourues. Et deuxièmement, il est aussi de la responsabilité donc, de tous les pays, depuis l'origine à travers le transit jusqu'à l'arrivée, donc, de faire le nécessaire afin que ces personnes ne tombent pas comme proie entre les mains de ces criminels qu'on appelle des passeurs ou bien des trafiquants, mais qui ne sont rien d'autre que des gens qui exploitent la misère et la souffrance humaine et réduisent donc ces personnes donc en esclaves, comme on a pu le voir à Libye, les vendent donc à d'autres qui les exploitent donc davantage, les vendent également aussi des mirages donc qui n'existent point, et en fin de compte donc ils sont des laissés donc pour compte. Et je pense que notre appel doit être un appel humanitaire à tous les niveaux. Que devons-nous faire au niveau des pays d'origine pour que les gens qui prennent cette décision, que ce soit une décision informée? La migration est un phénomène donc naturel et historique. Il ne s'agit pas de dire migrer ou ne migrer pas, mais qu'on le fasse en connaissance de cause. Et qu'on le fasse aussi de manière organisée, qu'on facilite des visas. Qu'on le fasse également aussi de manière protégée. Depuis les services consulaires, à travers les autres organisations qui appuient donc, les personnes en détresse et tous les acteurs de la mer donc, y contribuent. Et je pense que les drames que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous interpellent tous et il est grand temps que nous y répondions de manière efficace.
Amnesty International parle de politique meurtrière de certains pays européens. Alors justement, il y a une certaine montée de l'extrême droite dans certains pays, comme en Italie justement. Alors maintenant, on peut vous dire, écoutez, nous on a le droit d'accueillir qui on veut. Vous répondez quoi à ça?
Voyez-vous, d'abord, je dois saluer l'hospitalité et vraiment l'humanité dont beaucoup de pays ont fait preuve. Moi, j'étais même dans ces communautés en Italie et parfois des communautés qui ne sont pas très riches, mais qui ont fait preuve vraiment d'une humanité extraordinaire en accueillant un grand nombre de migrants. 100 000 migrants en 2017. Okay? Et en même temps aussi, il faudrait continuer à sensibiliser, parce que il y a certaines qui exploitent la peur des gens, qui exploite également aussi la différence donc de l'autre, en essayant aussi de d'avoir des gains politiques. Et c'est ce qui constitue le terreau fertile de l'extrême droite que vous avez mentionné tantôt. Que doit-il se passer? Nous pensons qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs de civilisation et que ces valeurs de civilisation européenne également aussi doivent obliger les Européens à ne pas trahir ces valeurs qui sont des valeurs d'humanité, de valeurs d'entraide, de valeurs de fraternité, de valeurs de soutien aux autres. Et nous les avons tous interpellés. Mais je suis aussi d'accord, ça ne suffit pas. Pendant que cela se passe, où sont les voix des pays d'origine? Et ça, ça manque cruellement. Où est la sympathie ou bien la compassion de ces pays d'origine? Ça manque cruellement. Il nous fait des références de personnes qui sont mortes en mort. A-t-on vu un drapeau en berne? A-t-on vu un cri de cœur? A-t-on vu un deuil qui est porté? Et moi, j'étais à Catania, j'attendais 2000, seulement une trentaine d'arrivées, plus de 1900 donc ont péri, et personne n'a porté un deuil. Et c'est là où je pense que donc la responsabilité de tout un chacun, pendant qu'on interpelle les Européens, nous devons aussi interpeller les pays d'origine et les pays de transit et tous les dirigeants donc qui sont impliqués.
Et maintenant, deux commentaires à Facebook.
Oui, Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi a été fait, dit, à mon avis, il ne faut pas chercher loin. La cause de ce mouvement migratoire dangereux est tout simplement la désorganisation dans nos pays africains. C'est un programme idéal pour la jeunesse et des politiques rigoureuses encourageant l'entrepreneuriat, la situation ne fera qu'empirer.
Et Boubacar Abalé du Sénégal, il écrit « Encore combien de victimes sous les yeux de nos autorités, indifférentes aux besoins de la jeunesse africaine. Pour nous, les jeunes qui n'avons pas de parents dans le pouvoir, c'est notre seule issue. Nous sommes bien diplômés, mais en réalité, les postes en Afrique sont génétiques. » On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et Ralil, c'est une question qu'on va aborder un peu plus tout à l'heure. Ce sera après la pause au Washington Forum, en collaboration avec Vox Télévisions. Revient dans un instant.
Anastasie Tudiech,
John Linden.
Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA.
Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture.
Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora.
L'actualité, c'est essentiel.
Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui.
Sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, que nous présentons en partenariat avec Vox Télévisions à Dakar. À mes côtés, mon confrère et ami Ralil Gueye, directeur de Vox Télévisions. Nous parlons du drame des migrants avec un focus sur le cas sénégalais. D'emblée, Ralil, vous nous proposez un Vox Pop, un micro-trottoir réalisé par votre équipe dans les rues de Dakar.
Parce que franchement, on risque sa vie. Mais en même temps, je les comprends parce que franchement, il n'y a pas de travail au Sénégal ni en Afrique. Moi, personnellement, j'ai fait mes études en France. Et l'année dernière, je suis venu en vacances au Sénégal pour chercher du travail. Franchement, j'ai cherché partout. Il n'y en a pas. Donc, pour moi qui ai des diplômes d'ingénieur qui n'arrive pas à trouver du travail au Sénégal, donc je comprends les personnes qui n'ont pas de diplôme et qui cherchent à partir. Mais par contre, quand on part, faut le faire bien. Donc, faut pas risquer sa vie pour rien, parce que faut vous dire que voilà, vous avez encore la vie devant vous, tout peut arriver, et c'est pas parce que c'est dur en 2018 que ça va être dur toute la vie. Voilà, il y a tellement eu de morts. Il y a des immigrés qui sont coincés en Libye et qui sont pris comme des esclaves. Donc voilà, moi j'évite. Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de trouver d'autres moyens. Mais il faut éviter la mer, quoi que ce soit. Et ce que je peux recommander au gouvernement sénégalais et au gouvernement africain, c'est de plus aider les jeunes, parce que franchement, ils ont l'envie de travailler, mais franchement, ils trouvent rien du tout.
Les gens qui vont aller à l'immigration, ils sont en train de perdre leur temps. Combien d'argent tu vas dépenser pour cette voyage alors que ça ne vaut pas la peine? Ici à Dakar, au Sénégal, il y a plein de secteurs où tu peux t'investir, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agriculture et autres, tu peux t'en sortir facilement, tu gagnes ta vie dans la paix et dans la tranquillité.
Et voilà pour ce micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale sénégalaise. Et maintenant, Ranil, nous retrouvons nos invités.
Oui, nous avons notre ami Erhaj Asik, secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des Croissants Rouges.
Également avec nous sur ce plateau, Rahmatoulaye Diagne, qui a travaillé sur la question de la migration quand elle était membre du Conseil économique et social du Sénégal.
Et aussi Abdou Diop, qui est rescapé justement de ce bateau, qui a vu 75 des membres de son groupe disparaître et mourir en mer. Alors, Abdou, vous avez été rapatrié, vous êtes rentré au Sénégal par Saint-Louis. Comment s'est passé ce retour à Saint-Louis?
Le moment qu'on est retourné pour partir à Saint-Louis, le moment qu'on a vu le village de Saint-Louis, on a traversé là-bas. On a rencontré un pirogue pêcheur. Il nous a pris nos moteurs, il nous a pris nos argent, nos vêtements, tout. Ensuite, on a agressé, on nous a jetés au Doumbabadjé. Un village qui s'appelle Doumbabadjé.
Oui, Doumbabadjé dans la région de Saint-Louis, à l'entrée de Saint-Louis. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que vous êtes. Comment vous avez survécu à ça? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Oui, ce qui s'est passé après, les gendarmes sont venus là-bas et les sapeurs-pompiers. Ils nous ont pris, ils nous ont ramenés à l'hôpital de Saint-Louis. Ensuite, les Croix-Rouges sont venus là-bas, Croix-Rouges espagnoles, et les ministres de la jeunesse étaient venus là-bas, les directeurs de l'hôpital. Le moment qu'on est sorti, on nous a donné un aide par la Croix-Rouge, mais on n'a rien vu.
Abdou Diop, vous avez entendu le commentaire de ce jeune Sénégalais tout à l'heure qui dit que l'émigration clandestine, ce dangereux trajet est sa seule issue. Vous qui êtes passé par là, quel conseil pouvez-vous lui donner?
Moi, le conseil que je donne les jeunes Africains, je n'ai pas dit les jeunes Sénégalais, surtout les Africains, de ne jamais faire ça, parce que ça fait beaucoup de risques. La mer est dangereuse, l'océan est dangereux. Si tu pars là-bas, si tu perds à manger, tu n'auras gagné des boutiques, tu n'auras rien là-bas. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas avoir à boire, rien. Tu vas mourir là-bas. Oui, ça fait beaucoup de risques, quoi.
Voilà, l'Afrique est sourde au drame que vivent ses enfants. Écrivait l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Tsebile Dramé, en 2015. Elle a déjà assis face à ce drame persistant. Y a-t-il aujourd'hui une réponse appropriée du continent?
Il y a une réponse, mais peut-être pas appropriée. Pourquoi y a-t-il une réponse? Je dois aussi saluer le fait que les pays africains eux-mêmes accueillent beaucoup de migrants. Nous parlons donc d'un million de migrants qui arrivent en Europe et ça devient une crise mondiale. Mais l'Ouganda, à lui seul, accueille un million de réfugiés du Soudan du Sud. Le plus grand camp de réfugiés du monde, jusqu'à il y a quelques mois, était au nord du Kenya, à Dadaab, où on accueillait des réfugiés somaliens. L'Éthiopie accueille également aussi des réfugiés. Et ici, tout près de chez nous, on en accueille au Niger, on en accueille donc au Mali. C'est une réponse. Quand il s'agit maintenant des filles et des fils donc de l'Afrique qui tentent cette aventure, qui n'est pas bien informée, qui n'est pas organisée, qui n'est pas soutenue, qui n'est pas protégée, c'est là où la réponse n'est pas adéquate. Si elle l'était, elle serait facilitée. Si elle l'était, elle serait protégée. Si elle l'était, elle serait mieux informée pour que ces jeunes ne tombent pas donc, entre les mains de ces criminels que nous voyons aujourd'hui.
Et on n'entend pas beaucoup venant des organisations panafricaines. On vous dira que font l'Union africaine et des blocs régionaux comme la CDAO.
C'est pourquoi nous les interpellons. Ceci passe forcément par une prise de conscience citoyenne. Ça concerne tout le monde. Que les citoyens africains sachent que c'est un problème qui nous touche, que nous en parlions, et que c'est un problème aussi qui nous touche et qui doit nous amener à interpeller nos dirigeants. Et qu'il doit y avoir un leadership affirmé donc dans ce sens-là. Et que c'est un sens de responsabilité qui doit être partagé. Je disais tantôt que nous avons interpellé les dirigeants européens, et à juste titre, de ne pas trahir les valeurs européennes de fraternité, de solidarité, de soutien, de ne pas trahir le droit international. Donc de venir en secours à ces personnes qui sont en détresse. De la même manière, nous interpellons également aussi les dirigeants africains, ce mutisme qui est un mutisme, ce silence qui est un silence assourdissant, il n'est pas du tout acceptable en un moment où tant de jeunes Africains perdent leur vie.
Tout à l'heure, vous disiez que ça dépasse mon entendement de voir des jeunes Sénégalais quitter ce pays. Alors justement, que fait un pays comme le Sénégal pour retenir ces jeunes? Que fait le gouvernement sénégalais pour les convaincre de ne pas partir?
Malheureusement, pas grand-chose. Parce qu'en fait, moi je note un grand paradoxe par rapport aux autorités sénégalaises. Parce qu'il y a une étude qui est faite pour essayer d'optimiser l'utilisation des fonds des ressortissants sénégalais de la diaspora. Comme disait tout à l'heure monsieur Si, il y a, les mouvements migratoires sont plus importants à l'intérieur de l'Afrique que de l'Afrique vers l'Europe. Les statistiques les montrent. Et ce qui est paradoxal au Sénégal, c'est qu'ils veulent, sachant que c'est des milliards qui entrent chaque année, récupérer cet argent-là, essayer de l'utiliser dans des projets de développement du pays. Mais ils ne savent pas combien de ressortissants ils ont. Ils ne savent pas combien part chaque année. Je ne sais pas, je vais peut-être poser la question à Abdou. Quand ils sont revenus, est-ce qu'on a répertorié avec les pièces d'identité les personnes qui sont décédées? Est-ce qu'ils ont eu un soutien psychologique? Est-ce qu'on leur a demandé pourquoi ils partaient, essayer de cerner un peu le problème? C'est ça le problème. Parce que à l'époque, je me souviens que les organisations non gouvernementales qui s'occupaient d'immigration, ils voulaient juste savoir combien de Sénégalais sont dans les prisons étrangères, combien de Sénégalais sont dans les zones de, comment dirais-je, les centres d'accueil. À l'époque, on était encore sous l'ère Kadhafi, où il y avait un centre de rétention en Libye, où il y avait des Sénégalais, mais personne ne pouvait vous dire combien de Sénégalais il y avait, d'où est-ce qu'ils venaient, quelle est la tranche d'âge. Moi, je pense qu'il faudrait quand même établir des statistiques, ne serait-ce que pour ça, savoir qui sont partis, combien on perd chaque année, etc. Et puis maintenant, prendre le problème à bras le corps et essayer de le résoudre, de trouver des solutions à ces jeunes. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand je vois le nombre de Chinois qui viennent sur nos chantiers, le nombre de Turcs à qui on fait appel, moi je pense qu'il y a un travail à faire.
Des ouvriers.
Moi je suis allé en Angola sur un chantier de l'université Agostinho Neto, où sur tout le chantier, même l'ouvrier qui poussait la brouette n'était pas angolais, il était chinois. Alors que moi, je veux bien cette coopération sino-africaine, mais qu'il y ait un transfert de compétences, qu'on forme nos jeunes, qu'ils puissent avoir un métier. Aujourd'hui, pour le métier qui me concerne, qui est l'architecture, nous avons même du mal à avoir des charpentiers ici. Le roi Hassan II, en construisant la mosquée de Casablanca, Il avait transformé ce chantier en un lieu de formation professionnelle. Il a fait venir les vieux artisans fassis avec leurs enfants pour qu'ils viennent travailler sur le chantier et qu'ils apprennent à leurs enfants sur le chantier comment on fait les oliges, les petits carreaux de mosaïque, comment on teint avec les matières naturelles de bois, comment on fait le tas de lacs. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans ce pays.
Et voilà un sujet qui mérite carrément une série. Peut-être que je reviendrai ici à Dakar pour cela, si Box Télévision m'invite, bien évidemment. Merci à tous nos invités. Eladj Assil, secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Également, Madame Ramatoulaye Diagne, qui a beaucoup planché sur cette question de la migration ici au Sénégal. Merci également à ce témoin qui a beaucoup apporté à cette émission, Abdou Diop. Merci. Et voilà, point final à ce Washington Forum, co-présenté ici à Box Télévision à Dakar, aux côtés de mon ami et confrère Ralil Gueye, directeur de Box Télévision. Ralil, merci. Merci pour cet accueil aussi chaleureux. Merci de participer au projet de VOA Afrique, de collaborer davantage avec ses partenaires sur le continent.
Avec plaisir, Jacques. Merci beaucoup et vous êtes encore. Revenez.
Voilà. Merci à tous mes collègues de Washington et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de VOA Afrique. Je vous dis à très bientôt.